La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.
Les dyslexiques peuvent consciemment manipuler les sons, mais pas les mettre en concordance avec des lettres. Entretien avec Annelise Giraud, professeure à l'Université de Genève, elle dirige l'équipe de recherche sur les neurosciences du langage, de la parole et de l'audition. Propos recueillis par Thibaut Dumas. Pour comprendre la parole, nous étudions les oscillations neuronales. Lorsqu'ils sont activés, nos neurones émettent des champs électriques et magnétiques. On peut mesurer ces champs à l'aide d'équipements spécifiques. L'électroencéphalographie, qui va mesurer les champs électriques, et la magnétoencéphalographie, qui va mesurer les champs magnétiques. Ces champs électromagnétiques sont des ondes qui oscillent à une certaine fréquence, d'où le terme d'oscillation neuronale. Ces ondes ont été classées selon leur fréquence et nommées par 5 lettres de l'alphabet grec, de delta à gamma, des plus basses fréquences aux plus hautes. Dans le domaine de la parole, les rythmes que notre cortex auditif émet de façon spontanée correspondent relativement avec la composante syllabique de la parole. Il s'agit là du rythme θ. De son côté, le rythme gamma, plus précisément la tranche basse du gamma, est adapté pour découper et coder les phonèmes dans la parole.
Vous écoutez Sirius Audio. C'est bien.
De nombreux troubles touchent le langage et la parole, comme l'aphasie, la dyslexie ou encore le bégaiement. Sont-ils tous liés aux mêmes perturbations cérébrales ? Il faut d'abord différencier les troubles acquis des troubles neurodéveloppementaux. Dans le premier cas, on part d'un cerveau normal qui se dégrade. Cela peut être dû à un accident vasculaire cérébral. Dans ces cas, on peut à la fois étudier le cerveau et tenter de le stimuler autant que possible afin que le patient se réhabilite et retrouve ses fonctions linguistiques. Les troubles acquis peuvent être liés à une dégénérescence, qui toucherait par exemple plus spécifiquement le système du langage, c'est-à-dire une partie identifiée du cerveau. Les troubles neurodéveloppementaux, eux, s'expriment sous la forme du bégaiement, de la dyslexie, des troubles de la communication dans l'autisme, voire des hallucinations auditives dans la schizophrénie. Il est difficile de dire que telle anomalie d'oscillation est révélatrice du bégaiement et telle autre de l'aphasie ou d'un autre trouble. On observe plutôt une différence générale des oscillations pour une personne victime d'un trouble par rapport à une personne qui n'en est pas porteuse. Il s'agit de pathologies très compliquées à comprendre puisqu'il existe un trouble primaire qu'on ne connaît généralement pas, sur lequel se greffe la compensation que le sujet a développée pour lutter contre ce trouble. Par scanner, on observe un certain nombre de dysfonctionnements et on doit déterminer s'il s'agit du trouble primaire, de troubles secondaires ou encore des efforts de compensation. Autant de cas qui supposent des approches différentes. Derrière les troubles neurodéveloppementaux s'expriment des aspects génétiques, les réseaux de neurones ne se formant pas de manière totalement parfaite. Ils ne se placent pas à l'endroit exact où ils devraient ou alors communiquent mal entre eux. On voit cela sous la forme d'anomalies dans les oscillations.
La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.
Le poids de l'origine génétique varie en fonction des troubles, mais également en fonction des personnes. Nous sommes tous génétiquement différents, et cela vaut aussi pour les pathologies. Il est ainsi très difficile de réunir tous les dyslexiques derrière la même anomalie génétique. On parle de gènes de susceptibilité, c'est-à-dire qui concerneraient plus un trouble qu'un autre. Pour chaque maladie, il existe un grand nombre de gènes de susceptibilité auxquels s'ajoutent des facteurs qui vont faire que l'expression de ces gènes va affecter le développement. La dyslexie est a priori un trouble de la lecture, mais on peut également y voir un trouble de la parole. La dyslexie, par définition, ne se manifeste qu'à partir du moment où un enfant essaye d'apprendre à lire. Et cela prend plusieurs années à se détecter et à se confirmer. Si les premières difficultés ne sont pas surmontées, les enfants se bloquent. Voici le processus. Un enfant apprend à parler sur une base essentiellement syllabique. Par exemple, avec les comptines, très syllabiques avec leur système de rimes. Jusqu'à l'âge de 6 ans, il ignore qu'à l'intérieur des syllabes, il existe autre chose. Puis on lui demande d'écouter et de repérer des éléments à l'intérieur de cette syllabe. On y trouve des sons courts, des phonèmes comme les sons des voyelles ou des consonnes par exemple, lesquels vont être symbolisés par des graphèmes, des lettres. Pour que le processus d'appariement entre les phonèmes et les graphèmes puisse se faire, l'enfant doit pouvoir segmenter correctement les syllabes en phonèmes universels. Chez les sujets atteints de dyslexie phonologique, les oscillations neuronales dans le rythme gamma bas sont déficientes dans le cortex auditif gauche. Les oscillations sont plus rapides que chez un individu sans trouble, et la fréquence de l'onde étant plus élevée, on change de catégorie d'onde. Cela revient à dire que ces sujets découpent la parole en éléments plus petits. Ils ont bien des éléments accessibles en tant que représentation et qu'ils peuvent manipuler consciemment, mais au moment où se présente un graphème en face, il n'y a pas forcément de concordance entre les deux, et cela peut poser des problèmes. Cette hypothèse, qui n'est pas encore universellement admise, donne de plus en plus de preuves de sa justesse.
Bravo ! Vous êtes sur Sirius Audio.
Cela pourrait se comparer, en vidéo, à un problème de suréchantillonnage, quand il y a trop d'images par seconde et que le film paraît lent, trop détaillé et que l'on s'y perd. Des observations montrent que les dyslexiques retiennent ce qu'on appelle une perception allophonique. Celle-ci est le fait qu'à la naissance, on est capable de traiter énormément de phonèmes et d'unités phonémiques, donc beaucoup de langues. L'enfant perd progressivement cette capacité pour aller vers des catégorisations spécifiques à sa langue natale. Chez les personnes dyslexiques, on note une rétention de cette perception allophonique. Existe-t-il une différence concernant la parole chez les autistes? La problématique dans l'autisme est multiple. Une des problématiques est liée à un problème d'échantillonnage. Ils sont extrasensibles aux mouvements très rapides et cela les perturbe beaucoup. Dans la parole, les personnes autistes peuvent être gênées par le fait de ne pas pouvoir intégrer les phonèmes. On arrive à capter leur attention en réduisant la cadence de la parole et en imposant une extrême prosodie, c'est-à-dire la modulation de l'expression orale par les intonations, tonalités, inflexions, accents ou encore par la vitesse d'élocution. Nos études ont montré que les personnes autistes avaient un problème d'alignement entre les deux rythmes qui nous intéressent, d'une part le rythme neural θ et d'autre part le rythme neural gamma. Chez un sujet sans trouble, le rythme gamma se cale sur le rythme θ au moment où la parole arrive. Les phonèmes se remettent à l'intérieur des syllabes et un encodage fiable est possible. Chez les personnes autistes, les deux rythmes ne sont pas calés, en phase. Cela empêche l'encodage phonémique à l'intérieur des syllabes qui permet de donner du sens à la parole. S'agissant des personnes atteintes de surdité à la naissance, existe-t-il des différences, notamment dans leur fonctionnement cérébral?
L'éléphant et Sirius Audio.
Dans le cas des sourds congénitaux, la langue des signes, qui est un langage à part entière, occupe les mêmes régions que le langage oral. Pour tout individu, le langage occupe les zones du visuel à cause de la lecture. Dans le cas des sourds, il y sera dès l'origine, avant toute forme de lecture. En outre, leurs régions auditives qui traitent habituellement la parole vont être recyclées pour traiter l'information visuelle. Néanmoins, le cortex auditif primaire, lui, ne pourra jamais être colonisé par du traitement visuel, quoi qu'il arrive. En revanche, si on pose un implant cochléaire à une personne ayant déjà acquis le langage par la langue des signes, donc par le visuel, elle ne pourra plus apprendre la langue orale puisque tous ses circuits du langage seront câblés pour l'information visuelle. Le cortex auditif pourra être stimulé par l'implant, mais il n'y aura pas d'interface possible avec le système du langage. C'est pour cela qu'on essaye de détecter les surdités très tôt et d'implanter si possible dans la première année pour que ces enfants ne restent pas sourds congénitaux. Ainsi, il y a de moins en moins de sourds qui utilisent exclusivement la langue des signes.
La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.